ערב טוב. ברשות בעל אכסניה, בעלת אכסניה, ברשות כבוד הרב, le shiur aujourd'hui בעזרת השם sera donné à la mémoire de plusieurs personnes, מיכאל בן מיכל ויצחק, לעילוי נשמת ז'אן-קלוד כהן, לעילוי נשמת הרב ציטרוס יוסף, לנשמת שמעון פרס, לעילוי נשמת לטיסיה בת עידה, לעילוי נשמת דונה בן אוליאל, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. לשיעור aujourd'hui est sur texte. Le texte est pris de l'un des écrits de mon maître, le Rav Superman Shlita. Et il traite bien entendu de Rosh Hashanah. Le cours s'appelle donc Ashrei Ha'am Yod'e Teruah. C'est un verset. Et avant de commencer, il faut déjà faire attention à cette notion, à cette définition. Heureux soit le peuple Yod'e Teruah. Normalement, on aurait attendu Asherei Ha'am Shom'ei Teruah. Heureux soit le peuple qui entend la Teruah. Et là, le texte nous dit Asherei Ha'am Yod'ei Teruah. Heureux est le peuple qui se connecte. Le mot Da'at, la Da'at, Yedi'a, c'est une connexion, c'est une connaissance profonde de la chose, comme le lien entre Adam et Ève. Sous-entendu que ce lien est censé engendrer quelque chose, faire naître, faire grandir de nouveaux éléments. C'est-à-dire que lorsque nous entendons le shofar, nous devons être fécondés. Et cette fécondation doit sortir de nous, en fait, tout ce qui sommeille à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire le véritable moi. J'appelle ça la belle, la Neshama s'appelle la belle, au moi dormant. Et il faut que l'homme aille chercher la belle au moi dormant. Car généralement, on ne s'occupe que de la bête. La belle et la bête, ce n'est pas une invention nouvelle, c'est la Neshama et le corps. Le corps et la bête, la Neshama et la belle, et tous les dessins animés sont basés sur la recherche de cette belle qui est endormie, qui sommeille, qui n'arrive pas à s'exprimer, et on doit faire tous les efforts possibles et imaginables pour aller réveiller cette belle. Bien, le shofar vient pour remettre en condition le contact entre notre extériorité et notre profondeur. C'est comme si, au moment du chauffard, on sortait le Yoel qui était en moi et on le plaçait face à moi pour que je regarde en fait à quelle distance je suis véritablement de lui, de moi. Et donc, le texte est très précis, Ashrei Ha'am, heureux soit le peuple qui sait se connecter au moment de la Teruah. Donc, il se passe quelque chose au moment de la Teruah. C'est pour ça que je ne traduis pas par sonner du chauffard, on ne sonne pas du chauffard, je sais que c'est cela qu'on dit en français, mais en hébreu ce n'est pas un slim, c'est une tekia, c'est un kol, c'est une voix, et non pas un son. Il y a une grande différence entre le son du chauffard et la voix du chauffard. La voix du chauffard est V-O-I-X et V-O-I-E. C'est-à-dire qu'il y a ici un chemin à emprunter que le chauffard vient nous donner. C'est d'ailleurs la seule mitzvah de Rosh Hashanah. Mitzvah Hayom, pas chauffard. Quelqu'un qui ne ferait rien Rosh Hashanah, il suffit d'entendre le chauffard, il a déjà appliqué la mitzvah de la journée. Après, il s'est rajouté des prières, des demandes pour couronner le roi de l'univers. Roi. A-t-il besoin de nous pour être roi? Apparemment, c'est la règle de ce monde, et on va essayer de comprendre ce qu'il se passe donc le jour de Rosh Hashanah. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples que ce que l'on pense. Rosh Hashanah ha'echad de Tishré. Donc Rosh Hashanah, c'est le premier du mois de Tishré. Donc c'est aussi Rosh Chodesh. Mais on ne mentionne pas réellement le Rosh Chodesh, clairement, alors que c'en est un. Et d'ailleurs, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, on ne dit pas. Pourquoi? Parce que le texte nous dit que Rosh Hashanah doit être caché. Bakesel Yom Chagenu. Il y a quelque chose de caché. Qui est caché? Mais comme chaque Rosh Chodesh, c'est la lune qui est cachée. Mais la lune représente l'assemblée d'Israël. Et donc, à Rosh Hashanah, on est dans un profil bas. Et on doit comprendre qu'il se passe quelque chose au niveau cosmique. Toujours est-il que Rosh Hashanah que nous fêtons, Huayom Bonivra Adam, ce n'est pas le jour de la création du monde, c'est le jour de la création de l'homme. Pas pareil. D'ailleurs, le monde a été créé aujourd'hui, le 25 du mois de Elul. Ça aussi, c'est pas évident, parce que qu'est-ce que ça veut dire le 25 du mois de Elul? Ni le 25 n'existait, ni Elul n'existait. Alors comment tu peux parler d'une création alors que la notion de temps n'existe même pas? Vous comprenez la question? Il y a un problème déjà au niveau de l'annonce de la chose. Alors il faut comprendre que les sages nous parlent d'une manière codifiée avec les potentiels. C'est-à-dire que lorsque le temps existera, le jour le plus approprié à la création du monde sera le 25 du mois de Elul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'est le moment le plus approprié pour que l'infini devienne fini. Pour qu'il y ait un passage entre le monde de l'infini et le monde du fini. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pourquoi? Il y a des notions, mais je n'ai pas placé le cours sur ce sujet, quoique c'est très important et très intéressant. Alors, nous savons donc que Rosh Hashanah, qui va être donc dimanche soir prochain, mais si vous comptez à partir d'aujourd'hui, c'est le sixième jour. Donc il est déjà passé six jours, et nous disons Rosh Hashanah, Shana Tova, seulement là-bas, pourquoi vous ne dites pas Shana Tova maintenant? C'est aujourd'hui la création du monde. On aurait dû se souhaiter Shana Tova déjà aujourd'hui. Et c'est ce que nous dit donc la Psikta de Rav Kahana au chapitre 23. Imzot, et malgré cela, nous dit le Rav, bitfilatenu anu mitjachasim le Rosh Hashanah keyom briat ha'olam bichlalo. Cependant, lorsqu'on parle Rosh Hashanah, lorsqu'on récite les prières de Rosh Hashanah, on considère cette journée comme étant quoi? Le jour de la création? Non. De la fécondation. Vous dites ayom harat Olam, lo hayom briat olam. Harat vient du mot herayon. Donc dans six jours, il y a en fait une notion de grossesse qui va donner naissance à un monde. Ça devient compliqué. Et pourtant on appelle ça donc Rosh Hashanah, le début de l'année. Alors que le début de l'année, on vient de le dire, c'était aujourd'hui. Alors je comprends plus rien. Que s'est-il passé donc dimanche soir prochain, ou lundi matin, le premier homme fut créé. Ok? Donc, le premier homme fut créé six jours après la création du monde. Alors, pourquoi vous dites dans vos prières de Rosh Hashanah, aujourd'hui c'est la fécondation du monde, vous ne parlez pas du tout de l'homme, alors que c'est son anniversaire? Et donc nous disons Ayom Harat Olam, troisième ligne. Vechen, Zehayom Trilat Ma'asecha. Et en plus de cela, nous disons dans la prière, aujourd'hui donc, dimanche soir prochain, et lundi et mardi, deux jours, vous allez dire, nous allons dire, Be'ezrat Hashem, c'est aujourd'hui que tes actions, l'éternel, ont commencé. Mais ce n'est pas vrai. Les actions de l'éternel ont commencé aujourd'hui, puisque le premier jour, il y a eu le ciel et la terre, et le deuxième jour, et le troisième, et les créations, et les oiseaux, et les poissons, et tout ça, l'homme n'a été créé qu'en dernier. Donc pourquoi nous disons Rosh Hashanah, et quand je vous dis qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est un problème très grave. Parce que normalement, quelqu'un de sensé, il regarde, se dit, il dit, attends, il y a plein de bêtises là, c'est pas possible. Ce ne sont pas des bêtises. Mais il y a ici un ordre qu'on ne connaît pas. Alors de quoi nous parlons? Et donc nous disons, Ze hayom trilat ma'asecha, on considère que Dieu a commencé à agir véritablement quand? Le jour de la création de l'homme. Conclusion première, tant que l'homme n'est pas là, le monde n'a pas encore commencé. Bizarre. Zikaron Leyom Rishon. Et en plus de cela, nous considérons cette journée comme le souvenir de la première journée. C'est pour ça qu'on appelle cette journée Yom HaZikaron. Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron. Vous n'allez jamais trouver le mot Rosh Hashanah, à part dans le titre. Machzor le Rosh Hashanah. Tout ce qui est écrit sur Rosh Hashanah, d'ailleurs même dans la Torah, vous ne trouverez jamais Rosh Hashanah comme étant, clairement en tout cas, le jour que vous fêtez aujourd'hui. Ce qui est écrit de Rosh Hashanah, c'est Yom Toa Yelachem. C'est un jour de son ou d'une teroua. Je ne sais même pas comment on peut traduire cela en français. Ce n'est pas une tekia. D'ailleurs, il y a encore des différences au niveau des sons eux-mêmes. Car la tekia, c'est un son qui est long. Mais la teroua, c'est déjà un son cassé. C'est même pas la shvarim qui est tain. Donc Rosh Hashanah, c'est un jour de ta. Donc on devrait sonner que des ta. Et pourtant, on sonne encore autre chose. Aolam Nivra, deuxième petit chapitre, Shisha Yamim Lifne Briata Adam. Donc le monde fut créé 6 jours avant la création de l'homme. Jusque là, vous me suivez? Ça va être compliqué. Veyamim Elou, ces jours-là donc, les 5 jours, plus le jour même où il est né, où il a été créé, Mouvaim Bekheshbon Kviat Minyan Hashanim, on les nomme, on les mentionne dans le compte des années. Alors, si on prend en compte les 6 jours avant la création de l'homme dans le compte des années, ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, on est dans, déjà en quelle année? Deuxième année. Car la première année, c'est les 6 jours, à partir d'aujourd'hui. Donc il y a eu une année de 6 jours, depuis le 25 Elul jusqu'au premier Tishré. Jusqu'à la création de l'homme. On considère ça comme une année. Comment est-ce que les sages appellent cette année? Shnat Tohu. Une année de Tohu. Bien entendu, ce n'est pas une année avec 365 jours. Mais ça s'appelle Tohu. Traduction désordre. Tohu va vohu. Il y a tout, mais en désordre. Donc l'homme va apparaître à la deuxième année, qui va commencer donc à Rosh Hashanah, on compte déjà une deuxième année, le jour même de la création de l'homme, donc l'homme a été créé en fait à la deuxième année de la création. Vous me suivez? Ok. Umanu et Hashana hamatrila bebriat haAdam keshana shmiya la yesira. Donc dans les contes, dans la Gemara, dans les Tosfos, quel Rosh Hashanah, la page 8, on nous dit que la deuxième année, c'est là où l'homme est né. Pourquoi c'est important de comprendre que l'homme est né la deuxième année et non pas la première? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Eh bien, cela place l'homme déjà dans un monde de pluralité. Il est déjà dans le 2. Pour bien le démarquer du 1. C'est-à-dire que l'homme, par définition, il est déjà dans un monde de pluriel. Dans un monde de détails. Il ne peut pas comprendre l'unicité de Dieu. Il est déjà dans le plus. Il est déjà dans le pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu nous parle avec ses codes à lui, qui sont toujours un, nous, les hommes, on est incapables de l'entendre dans ses codes un, et immédiatement nous avons un traducteur simultané que chaque fois que quelque chose descend de chez lui qui est un, chez nous ça devient deux. David HaMelech nous le dit dans Tehillim 62. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Quand Dieu parle en code 1, moi j'entends toujours 2. S'il me donne une Torah, je reçois 2 tables. S'il me parle d'une voix, j'entends par 2 oreilles. C'est bizarre. Ça veut dire que tout ce qui est dans notre monde est minimum en stéréophonie. Mais ça veut dire plus que ça. Si tu n'étudies pas la Torah en stéréophonie, tu ne pourras jamais comprendre l'unicité de Dieu. Autrement dit, la seule possibilité de comprendre l'unicité de Dieu, c'est d'être deux. L'homme et sa femme. Un élève et son ami. Un maître et son élève. Chavruta o mituta. Ou bien tu étudies à deux, ou bien tu meurs. Par quoi ? Par ton propre circuit d'intelligence qui est bloqué par son propre système. Car quelqu'un qui lit quelque chose, personne n'est là pour le contredire, donc il est toujours en train de mordre sa queue. Donc il ne peut pas étudier réellement parce qu'il est bloqué dans son propre système de réflexion. Alors que lorsque vous étudiez à deux, il y a tout de suite une contradiction et la lumière sortira, jaillira entre les deux. C'est pour cela d'ailleurs qu'au sein des saints, qu'est-ce qu'il y avait ? Deux chérubins. Et la voix de Dieu sortait entre les deux. C'est une règle. Un qui se divise en deux, diffuse en deux, deux en bas. Un triangle. Je viens de vous dessiner un triangle. D'accord ? Au sommet, il y a l'unicité de Dieu, et à la base du triangle, deux points, A et B. Pour comprendre l'unicité de Dieu, il faut être A et B. Donc A et B, c'est B, c'est deux. En hébreu, B. L'unicité de Dieu, c'est le Aleph. Donc, pour comprendre le Aleph, il faut être dans le B. Quand le B précède le Aleph, ça fait bas. Je vais vers. Donc le B va vers le Aleph. Et c'est ce qu'on appelle le Olam Ha-Ba. Qu'est-ce que c'est que le Olam Ha-Ba ? Pas le monde futur, et toutes ces foutaises de traduction en français. C'est le monde qui vient, le monde qui te permet par le double, par le bête, d'atteindre le Aleph. Par la pluralité d'atteindre l'unicité. Par le temps, car en hébreu, deux, shnaim, c'est aussi l'introduction de la notion de temps, shnia. D'ailleurs en français aussi, la seconde. Donc pour avoir du temps, il faut avoir deux, dans toutes les langues. Chez Dieu, le temps n'existe pas. Donc il n'y a pas de shmiya. Donc il n'y a pas aussi de changement. Shinui. Donc Dieu ne change pas. Ani Hashem, lo shaniti. Chez moi, il n'y a pas deux, donc il n'y a pas de changement. Mais chez vous, oui. Shana Tova. Bon changement. Quand vous dites à quelqu'un Shana Tova, c'est pas Happy New Year. C'est loin de là. C'est pas bonne année. C'est sûr qu'on se souhaite une bonne année, mais c'est avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une bonne année ? Un bon changement vers le bien. Change. Évolue. Et c'est ça le secret de Shnia. Et si tu n'appartiens pas à ce changement, eh bien ta Shnia devient Neshia, qui veut dire l'oubli. Tu oublieras, Chazé Shalom. C'est ce qu'on appelle le nerf sciatique. Guide à nacher. Le nerf de l'oubli. Qui est lié, on se demande pourquoi, à la femme. Nashim. Ça veut dire que l'homme qui tomberait dans un monde où il oublie en réalité sa source, il est complètement dans l'oubli. Pourquoi ça appartient à la femme ? Prochain épisode. Alpizé, Mikva molad shel tishrei leshnatato. Donc en fait, le molad, la naissance, l'accouchement de cette année, c'est le tohu. Shehu abasis lecheshbon amoladot ulekviat luach hashana ivrit. Madua imken, anu korim bechol zot layom hashishi layetzira, shu yom briat haadam, yom briat haolam. Donc la question reste toujours en place. Pourquoi nous disons que le sixième jour, qui est en réalité la création de l'homme, pourquoi on dit que c'est la création du monde? C'est simple. Réponse. Nire, il semble, chez Briat Adam, Mikva Ofio Shel Haolam. C'est seulement lorsque l'homme est apparu dans ce monde que la qualité de ce monde a pris tout son sens. Autrement dit, le monde sans l'homme n'est pas un monde, il n'a pas de caractère, il est figé, il est inactif. Un monde sans les hommes ne vaut rien. Les ficha, et c'est pourquoi, rak az mishlema briato. Alors les sages, pour te faire comprendre cela, ils t'ont écrit dans ton livre de prière de Rosh Hashanah, c'est aujourd'hui que le monde a été créé. Même s'il avait été créé 6 jours avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toi, l'homme, tu es arrivé sur terre, donc on considère que la création vient d'être terminée maintenant par ton arrivée à toi. Donc, tant que l'homme n'est pas arrivé sur terre, le monde n'en est pas un. Dieu ne considère pas le monde comme un monde sans l'homme. Or, l'homme a été créé à quelle place par rapport aux animaux? Deuxième, troisième, cinquième? Premier? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. La dernière création, c'est l'homme. Et d'ailleurs, les sages nous disent, si un homme se prend pour je ne sais pas quoi, on lui dit, il est tout chez Damra. Un petit moustique t'a précédé. Alors, descends un petit peu ton niveau. Donc l'homme, c'est le dernier. Mais en même temps, si c'est le dernier, c'est pas seulement péjoratif pour lui dire, tu vois, tu n'es rien. Au contraire, tu es le couronnement de tout. Tout a été prévu pour ton arrivée. On t'a préparé un terrain, donc maintenant il faut juste que tu fasses une seule chose. Étant donné que tu as été créé le sixième jour de la création, qu'est-ce qu'il te reste à faire? À rentrer dans le septième, dans le Shabbat. C'est tout ce qu'on demande à l'homme. Beau, voilà, Sarah, comme on dit en français. Ce même jour, au lieu de rentrer dans le Shabbat et de terminer l'histoire, en fait, avec l'aboutissement messianique, qui c'était donc le messianique? Lui-même. Adam Arishon était Melech HaMashiach. Car dans son nom, Adam, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Aleph, c'est lui-même, Adam, deux, c'est David, et c'est Mashiach. Donc Adam, David, Mashiach étaient englobés dans Adam. Donc toute l'histoire de l'humanité, tout le messianisme que vous attendez maintenant, était déjà en lui. S'il était tout simplement ancré dans le Shabbat sans fauter auparavant. Donc il nous reste encore quelque chose à faire, à rentrer dans le Shabbat. On a raté quelque chose. On est là pour une seule chose. Pour faire entrer le monde dans son Shabbat. Dieu, est-ce qu'il est arrivé déjà à son Shabbat? Oui. Dieu, il est déjà arrivé à son Shabbat. Il a marqué au Vayom Ashri, Shabbat. Le septième jour, lui, il a chômé. Mais le monde dans lequel nous sommes, il n'est pas arrivé encore à son Shabbat. Donc on est dans décalage par rapport à Dieu. Je suis en train de vous compliquer la tête. Hein? Ça va, c'est clair? Ça veut dire que Dieu est rentré dans son Shabbat et nous ne sommes pas encore entrés dans notre Shabbat. Donc Dieu est en train de faire Shabbat et nous, nous sommes comme son Goy Shabbat. À chaque fois qu'il faut allumer la lumière, c'est nous qui l'allumons. Mais, il y a un problème. Dieu n'a pas le droit de profaner le Shabbat. Car s'il nous donne une mitzvah, lui-même l'applique. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ce monde qui ne va pas, quand Dieu intervient dans ce monde, ça s'appelle profaner son Shabbat. Donc on l'oblige à profaner son Shabbat quand il doit apparaître dans notre monde d'une manière brutale, miraculeuse. Donc les sages nous disent, ceux qui demandent des miracles dans ce monde n'ont rien compris. Parce qu'ils forcent Dieu à profaner son Shabbat. Terrible. Donc quelle est la solution? Qu'on se débrouille comme des grands. C'est-à-dire que lorsque les enfants sont dans la chambre et que tout va bien, les parents n'ont pas besoin de venir voir ce qui se passe à chaque 5 secondes. Ou vous vous arrêtez, ou je ne sais pas ce que je vais faire. Ça, c'est quand ça ne va pas. Mais des enfants qui marchent bien, de temps en temps, le parent, il ouvre la porte, il regarde, et il referme. C'est ce que Dieu aurait dû faire si on était mature. Et comme on est encore des petits-enfants qui disputent pour des billes, et pour des petites toupies, ou pour des Legos, ou pour de l'ego, alors il y a toujours une intervention divine qui vient remettre les choses en place. Et donc à chaque fois que ça se passe, ça montre combien nous sommes petits. Moralité, l'histoire humaine, qui a commencé lorsqu'on était petit, et que maintenant on est en train de devenir adulte, eh bien, vous voyez de moins en moins Dieu d'une manière claire. Les gens se demandent, mais pourquoi à la sortie d'Égypte on voyait des miracles clairs? Réponse, parce qu'on était des petits bébés. Aujourd'hui, tous les miracles sont cachés dans la nature parce que nous sommes de plus en plus matures et Dieu, il fait juste une petite ouverture, un clin d'œil et il n'intervient pas clairement dans l'histoire au point de tout casser. Il s'habille dans les événements de la nature. Ça prouve qu'on est mature. Vous voyez tout le contraire de ce que vous pensez. Les gens attendent des miracles et les sages nous disent haine son crime à la messe. C'est interdit de se fier au miracle. Ça veut dire que c'est petit. Tu ne peux pas te débrouiller, donc t'attends toujours papa. Vous voyez l'inverse? Donc plus on va aller, plus les fêtes juives que nous allons avoir vont être des fêtes où Dieu apparemment n'intervient pas. Bien sûr qu'il intervient, mais qu'est-ce qu'on va voir, nous, de ces fêtes-là? Que l'intervention humaine, à tel point que certains d'entre nous vont se tromper et vont dire « Dieu n'était pas là ». C'est pas Dieu qui a fait l'État d'Israël, c'est le Palma. Alors, de deux côtés, vous allez pouvoir le dire, ou tu es très, 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 très religieux, et tu vas le dire juste avec un autre accent. Ou bien tu es chiloni anti-religieux, et tu vas dire la même chose. Où est Dieu là-dedans? C'est le palma. C'est la même chose. Tu veux montrer que Dieu était à l'intérieur de cela? Tu dois faire une bénédiction. Baruch ata Hashem Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotah Vetzivanu, Ligmor et Ha'alel. Si tu lis le Hallel le jour de ton indépendance, tu vas prouver par ta bénédiction que tu es sûr et certain, convaincu que Dieu est dans l'histoire, mais d'une manière cachée. Et d'ailleurs, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, les premières fêtes étaient une manifestation totale de Dieu, et plus on avance dans l'histoire, plus Dieu disparaît. Pourim. Il n'y a même pas Dieu dans la Megillah. On aurait pu dire, c'est l'histoire de Esther et de Mordechai. Fini, il n'y a pas Dieu là-dedans. Hanouka, il est où Dieu? C'est les Maccabées qui se sont battus contre les Grecs qui étaient en Israël. C'est tout, c'est une armée. Vous comprenez comment l'histoire marche? Et je conclue, cela prouve que nous sommes matures, Baruch HaShem, que nous avons grandi. Car Dieu est de moins en moins brutalement présent par des miracles, et il s'habille dans la nature. Car la nature a eu de la peine. Quand est-ce que la nature a eu de la peine? À la sortie d'Égypte. Vous savez pourquoi? Dieu a créé la nature, et au moment de la sortie d'Égypte, il a dit à la nature, 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 dame nature, s'il te plaît, dégage, tu me déranges. Toi, l'eau qui a l'habitude de couler, tu vas te dresser comme un mur. Mais pourquoi? Alors pourquoi tu m'as fait liquide? Toi, l'eau, tu vas devenir sang. Les sauterelles, les poux, les dix plaies. la terre s'est dit, la matière s'est dit, la nature s'est dit, mais Dieu ne veut pas de moi. Il ne peut pas agir dans ce monde sans me dégager. Je demande un remboursement. Et Dieu lui dit, tu seras remboursé à la fin des temps. Tout ce que je ferai à la fin des temps, dans la dernière délivrance, sera habillé dans la nature, à tel point que personne ne verra mon intervention divine. Seulement ceux qui ont des yeux. Et c'est ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu à chaque prière. Vetechezena enenu beshuvcha letzion berachamim. Dieu, ouvre-nous les yeux quand tu reviendras, parce que ça risque d'être très compliqué à voir. Et beaucoup ne verront pas. Donc nous sommes obligés de conclure qu'au moment de la création du monde, pas du monde, de l'homme, a été fixé au fioshel haolam. Qu'est-ce que c'est ofi? Le caractère. C'est-à-dire le véritable caractère du monde, c'est qui? L'homme. Le fichach, rak az mishlema briato. C'est pour cela qu'en réalité, le monde fut terminé, clôturé, seulement avec l'apparition de l'homme. Adam et Norak chotem et ma'alach abriya. Et l'homme n'est pas seulement celui qui clôture la création du monde. Et là où gamze se beyecholto, le aussi et la poal et reton Hashem ba'olam anivra. C'est grâce à l'homme, avec un véritable degré d'homme, Adam, qui est capable d'activer et de révéler Dieu dans la création. Donc nous avons un rôle. Nous avons un rôle de révéler l'infini dans le fini. Donc tout nous attend. C'est nous. Dieu a créé un jeu. Si vous, les hommes, vous ne faites pas votre travail, moi je ne suis pas Dieu. Ça vous semble logique? Bizarre, hein? Et pourtant, ce sont des versets. Atem edai va ani el. Voilà la règle du jeu. Vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Vous n'êtes pas mes témoins, je n'interviens pas, vous ne me connaissez jamais. Donc si vous attendez quelque chose qui vous descend du ciel, à part Papa Noël, il n'y a rien. Rien du tout. Donc qu'est-ce que vous allez voir en réalité de ce grand ciel? Les actions des hommes qui s'appellent Adam. Or, les sages nous disent, Atem kruim Adam. C'est vous, le peuple d'Israël, qui avez reçu ce qualificatif qui s'appelle Adam. Vous. Autrement dit, Dieu nous met une responsabilité sur la tête, où, pour voir le Aleph, je dois d'abord voir mon frère. Donc je rajoute à la lettre Aleph la lettre Ré. Ah. Et comme je suis capable de voir mon frère, je suis capable de voir l'autre. Donc je rajoute la lettre Resh, Acher. Et quand je suis capable de voir le Acher, je deviens Achraï. Je deviens responsable. Co-responsable. Donc Dieu me dit, tant que tu n'es pas co-responsable, tant que tu n'aimes pas ton prochain, tant que tu n'es pas avec ton prochain, moi, je ne suis pas Dieu. Ve'ahta le'reacha kamocha. Vous connaissez tous ça, Nachon. Quelle est la suite? Ha. 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 À part ce qui étudie, voilà. Ve'ahta le'reacha kamocha. C'est bien beau, aime ton prochain comme toi-même. Mais la fin, elle est beaucoup plus importante. Ani Hashem. Je suis l'éternel. Autrement dit, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, je suis rien du tout, moi. Donc tu arrives Yom Kippourim, à la synagogue, tu te mets un talit où tu as l'impression que tu es seul au monde, tu regardes plus personne, l'oroé au tramimeter, et tu as l'impression que tu es face à ton créateur, qui est tranquille. Si tu n'es pas capable de voir ton frère, Dieu ne peut même pas recevoir ta prière. Vous comprenez ça? Averot chez Ben Adam la Chavero, Eliyom Akipurim et Chaper. Les fautes entre l'homme et son prochain Yom HaKippourim ne peut pas pardonner. Et c'est pas les fautes. Il y a des fautes qui sont très cachées, très subtiles. Le Lashon Hara. Non, moi j'ai rien dit, mais quand même, j'ai vu comment... Mais pire que ça, le Motsi Shemra. Extraordinaire. C'est-à-dire inventer quelque chose parce que tu as cru que... Et donc attirer la conclusion... Terrible. Alors il y a du boulot. Avant Rosh Hashanah, jusqu'à Yom HaKippourim, ça ne sert à rien d'aller sans dire des slichot. Si vous n'êtes pas capable de lever le téléphone en disant « j'ai pensé du mal de toi », je te demande pardon. C'était injustifié. J'ai cru comprendre des choses, mais je suis arrivé à des conclusions trop vite et je regrette. Même si c'est justifié. Je te demande de me pardonner. En fait, nous sommes tous des cellules d'un même corps. Tu as déjà vu le pouce s'énerver avec le doigt et lui dire « écoute, j'en ai marre de toi ». Ou alors une dent contre une autre, elle lui dit « j'ai une dent contre toi ». Ça n'existe pas. Quand tu t'es coupé un jour avec un couteau, ça t'est arrivé. L'autre main s'est vengée sur la première main qui a coupé. Non. Pourquoi? C'est-à-dire ton être tout entier a compris qu'il y a eu une erreur. Mais bon, c'est pas la guerre entre tous les doigts et entre toutes les cellules, sinon c'est un cancer. C'est d'ailleurs ça la maladie du cancer. C'est lorsqu'une cellule est sortie du tout, elle ne voit plus le tout, et elle fait ce qu'elle a envie elle-même, elle devient folle. Voilà la maladie. Et cette maladie n'est pas seulement dans le corps, ça vous fait peur cette maladie dans le corps, mais elle est dans la société, Chas v'Shalom. À partir du moment où vous marginalisez quelqu'un, ou même vous, vous sortez, il n'y a pas pire que ça. Vous savez ce que c'est un rachat? Les fiches aussi, c'est à ce moment. C'est une cellule qui est sortie du tout. Kafar Baïkar, il a renié l'essentiel. Et donc, qu'est-ce que c'est le rachat? C'est les initiales. Resh, Shin, Ein. Ratson, Shel, Asmo. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Voilà le vrai rachat. C'est l'égoïste par excellence. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il cherche où est son intérêt à lui. Il n'y a jamais l'intérêt collectif, il n'y a jamais l'intérêt de la nation. C'est un problème avec tout ça, Rabotai. Rosh Hashanah, c'est pas juste s'asseoir à table, la famille, avec Baram Achor et l'année prochaine si Dieu veut. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est une prise de responsabilité. Qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie? Est-ce que je veux continuer dans ce système ou est-ce que je veux véritablement que la royauté divine se diffuse dans mon monde, dans le monde d'en bas? Pas encore faire des fêtes, ça c'est des rituels, Rabotai. Je suis désolé de vous casser un petit peu l'ambiance. Mais ça suffit pas, ça. Ça suffit plus. Ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Vous voulez les jours messianiques, les temps messianiques réels? C'est plus comme ça. Alors qu'a fini ta fille là, comment il a sonné? Oh là là, on avait un sonneur cette année grâce à Dieu. Oui, ben, mais cette sonnerie du chauffard, ça doit être la dernière, c'est celle du Mashiach, ça suffit. Moi j'ai un grand souci. C'est orgueilleux ce que je vais vous dire, mais c'est pas orgueilleux. Je vous le dis du fond du cœur. J'ai un seul souci. Que la Shrina se dévoile. Que Dieu se dévoile dans ce monde. Je me fais du souci pour lui. J'en ai marre de la honte qu'on fait à la Shrina. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas encore une fois de faire un truc, et de bouger, et de faire des... C'est fini tout ça, arrêtez. Si vous n'êtes pas vrai à l'intérieur, arrêtez. C'est du cinéma. Regardez ce que le prophète Micha dit au chapitre 6. Vous croyez que j'ai besoin que vous m'apportiez des bétail, du gros bétail, du menu bétail au Beth Amikdash et vous fassiez la fête et à la hêche et... Je veux une seule chose, sois bon avec ton ami. Après, tu viendras me parler. Ça, c'est ce que l'homme est venu faire dans ce monde. Baruch Hashem, il y a des hommes comme ça. Je ne suis pas en train de vous parler à vous. Vous êtes venus au Shiur Manatov. C'est toujours ceux qui viennent qui prennent. Mais en réalité, je me parle à moi. En premier. Et vous êtes venus écouter. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens autour de moi. Quand je réfléchis à haute voix, c'est sympathique. On m'a demandé de venir à Ra'anana dans une adresse bien précise et de réfléchir à haute voix. Et il se trouve qu'à chaque fois que je réfléchis à haute voix, quand j'ouvre les yeux, il y a du monde dans mon crachet. Sympathique. Donc je suis en train d'étudier avec vous. Comme si j'étudiais seul. Donc l'homme a été doté d'une qualité intrinsèque que Dieu a placée en lui. Et quelle est cette qualité? La capacité à rencontrer la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on est venu faire. Moi je sais ce que vous voulez. Et encore, même vous, des fois, vous ne savez pas. Mais savoir ce que Dieu veut, c'est exactement ça que nous sommes venus faire. Alors posez la question, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Moi, ce que je veux toute la journée, c'est facile. Je veux manger, je veux boire, je veux dormir, je veux. Je veux un canapé, je veux un machin. Change-moi le truc, change-moi le machin, je veux. Mais qu'est-ce que Dieu il veut là-dedans? Est-ce qu'il veut ça? Qu'est-ce qu'il veut? Et il m'a dit ce qu'il veut. Seulement, je n'étudie pas. Il est venu me voir, ce grand créateur, l'infini béni soit-il au mont Sinaï, il est descendu dans ce monde exprès pour moi, pour me dire voilà ce que je veux. Et on ouvre la Torah pour savoir ce qu'il veut. Ou on s'intéresse plutôt à ce qu'on veut nous. On pense à la belle ou on est toute la journée avec la bête. Réfléchissez vraiment. Adam ou Kli. L'homme est un ustensile. Mouchan. Qu'est-ce que ça veut dire Mouchan? Prévu, pas prêt seulement. L'inverse de Mouchan, c'est Moukhté. L'homme est prévu. Les kabel est à tochen shel reson Hashem. De recevoir l'essentiel même de la volonté de Dieu. Vous savez ce que c'est? Moi, je dis ce que je suis en train de dire et j'ai peur. Ça veut dire que nous avons été dotés d'une capacité à recevoir la volonté de l'infini sans brûler. Il faut le faire quand même. Non, normalement, jouer avec une lumière aussi intense, c'est brûler immédiatement. Eh bien, le peuple d'Israël a reçu en qualité cette résistance de recevoir la lumière de l'infini et de ne pas mourir. Et non seulement de ne pas mourir, mais de faire vivre le monde grâce à cette qualité. Donc nous sommes là pour une seule chose, permettre au monde de réaliser ce qu'il a en lui. Car le monde a beaucoup de choses dans son ventre. Et si on ne l'aide pas à accoucher, eh bien il va garder tous ses trésors à l'intérieur de lui-même et on va passer à côté. Aval. On a un seul but. Le prophète nous le dit, j'ai créé ce peuple d'Israël pour une seule chose. Il a un seul rôle dans l'histoire. C'est incroyable, hein? On n'a pas grand chose à faire. Am, zu, yassar, tili, tehillati, yassaperu. C'est tout. Vous avez été créé faisant partie de ce peuple pour une seule chose, pour raconter l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire raconter l'éternel? Raconter la morale telle que l'éternel la veut. La justice telle que l'éternel la veut. La bonté telle que l'éternel la veut. C'est tout. À qui on doit raconter ça? Au monde. Jusqu'à ce que ma lumière divine arrive en Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est le degré le plus bas de ce monde. On appelle d'une manière codifiée dans la Torah l'Égypte. sous-entendez tous les pays du monde, toute l'humanité. Le peuple juif doit devenir ce qu'il est depuis son existence, c'est-à-dire la lumière des nations. Si tu ne joues pas ce rôle de lumière des nations sur ta terre, alors tu peux développer une religion. Une religion, on peut développer à Barcelone. Une religion, on peut développer à Paris, mais pas un judaïsme. La première rencontre de l'éternel, de l'infini béni soit-il avec un homme, le premier Israël de l'histoire, Abraham, c'est Lech Lecha, Ve'eretzcha le'goy gadol, et la Haaretz asher araka. Seulement sur la terre d'Israël tu deviendras ce que moi l'éternel je veux. Pas juste que tu observes le sabbat, que tu manges ta chair et que tes enfants soient dans une école juive. Ça je peux le faire dans le monde entier. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Ça c'est pas la volonté de Dieu, Rabotai, je suis désolé. C'est la volonté de certains hommes qui ont décidé de vivre leur judaïsme ailleurs. C'est marqué, bon sang. J'invente rien. Je veux pas que tu sois un grand homme. Je veux pas que tu sois un grand rabbin. Je veux que tu sois un grand peuple. Et où est-ce que tu deviens un grand peuple? Seulement sur ta terre. Et pourquoi faire? La suite du verset. Je veux que toutes les nations et toutes les familles de la terre soient bénies par ton retour. Donc quand vous parlez de la tshuva, vous savez ce que c'est que la tshuva? Vous avez l'impression que la tshuva, c'est commencer à manger kasher, faire shabbat, c'est ce qu'on vous a dit toute votre vie. Mais la première notion de tshuva avant cette tshuva que j'appelle religieuse, c'est d'abord et avant tout ce que la Torah dit. Est-ce qu'il y a un verset dans la Torah qui parle de la tshuva? Oui. Veshavta ad Adonai Elohecha, veshamata bekolo. Ah, le kol. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu et tu entendras le kol. Quel kol? Lishmoa. Kol, shofar. Et alors comment ça se manifeste? Parce que là, Dieu nous laisse dans l'intrigue. Bien non, il y a un verset juste après. Qu'est-ce que dit que le verset après? Veshav Hashem et Shevutra Verichamecha. Ah, ça commence à devenir intéressant. Et Dieu lui-même reviendra. Et en hébreu veut dire avec, Sheboutra, ton retour. Quand tu reviendras, Dieu reviendra avec toi. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait revenir Dieu sur terre grâce à ton alia. Donc tu as sauvé Dieu de son exil. Magnifique. Et Rashi sur place, il voit qu'il y a un problème en hébreu, il dit, il n'y a pas marqué Dieu te ramènera. Sinon, le texte aurait été « Veheshiv Hashem Otra » « Dieu te ramènera » C'est pas ce qui est écrit. Dieu lui-même, « Veshav » reviendra. Dieu doit revenir, mais ici, il est où? Eh bien, il est en exil. Et Rashi, là-bas, si tu ne comprends pas, alors il faut être vraiment « torche ». Il rajoute, comme Ripollin, une troisième couche, et il te dit « Qui gadol yom kibbutz galuyot ou bekoshi. Le jour où Dieu va ramener les exilés, ça va être tellement dur que il ou tofet sochez beyado echad echad. Comme s'il va vous prendre par la main un par un pour vous ramener. Imaginez-vous. Dieu est allé vous chercher dans des ruelles paumées, des villes paumées où vous étiez, et il vous a pris par la main et vous a mis dans l'avion. C'est écrit dans Rashi. Extraordinaire. Il y a 1000 ans, Rashi. Et la Torah, infinie. Elle savait exactement l'histoire. Elle est en train de nous raconter l'histoire. Et Rambam, pour te dire qu'est-ce que c'est que la Géoula, il ne va pas te dire quand tu auras plein de yeshivot partout. Une seule chose, une seule référence. Rambam, Géoula, Halakha, Hilchot Melachim, chapitre 11. En ben haolam hazeh le yemot ha-mashiach ela shi'abud malkuyot bilvad. qu'est-ce qu'il y a entre le temps non messianique et le temps messianique? Seulement une chose, lorsque Israël redeviendra indépendant. Magnifique. Rambam, Maïmonide. Alors peut-être que je me trompe. Alors Rambam, il me raccouche encore une nouvelle couche. Il te dit, car il y a un seul verset dans la Torah qui parle de ça. Lequel? Il y a midachacha bikta shamay, misham yekabbetra, misham yikarecha, vehezdiacha el av. Dieu ne pense qu'à une seule chose, que tu fasses ton alia. C'est le rêve de Dieu. The American Dream, le rêve américain. Bien? Vous savez ce que c'est que le rêve américain? J'ai dit aux enfants, parce qu'ils sont tous, waouh, Las Vegas, les lumières, New York. Bien? C'est comme le grand piège à mouches. Bleu. Hey, les mouches, elles sont là. Waouh, Las Vegas! C'est la même chose. Il y a un seul lieu parce qu'il y a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, il est cosmique, il est universel. Et c'est à nous, le peuple d'Israël, d'avoir cette responsabilité. Voilà ce que vous fêtez, Rosh Hashanah. L'anniversaire de la création de l'homme qui est censé terminer la création. C'est pour ça qu'on ne fête pas la création aujourd'hui, alors que c'était aujourd'hui, mais le jour où l'homme va apparaître. On vous dit ça? Alors, où on est tombé? Dans la religion. Rosh Hashanah, fais attention. On va te juger. Comment tu étais? Tiens, Rachat, fais attention. Non. Mais grandis. Quand tu t'occupes de quelque chose d'énorme, aussi grand que ça, tu dois savoir où tu te places. Ha Adam ma'anik mashmaout le ma'aseh bereshit. C'est l'homme qui va donner le sens à toute la création. Ve'aliado, et grâce à lui, yotse kol prit babria mi il muto hadomene. Magnifique. Et c'est grâce à l'homme que tout ce qui a été créé dans ce monde va sortir de ça. Il muto, il muto, de son mutisme, muet, il aime. Je comprends par cela que Dieu a créé le monde muet. Que Dieu a créé le monde figé, gelé, congelé. Et là aussi, je vous rajoute une nouvelle chose que vous ne saviez pas. Vous avez l'impression que, par exemple, quand Dieu créa les oiseaux, alors ça s'est... Et vous voyez, vous imaginez le vent, et le jardin d'Éden, des beaux vergers, des fruits, des animaux. Rien. Nous disent les sages dans la Kabbalah, suite à un verset que je vais vous citer tout de suite, que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, tout était congelé. Ça veut dire les oiseaux étaient congelés dans le ciel, les poissons étaient congelés dans la mer était congelée, la vache était congelée, le chat était congelé avec le lion. Et alors, qui c'est qui décongèle tout ça? L'homme. Comment est-ce qu'il fait? Où m'échamez chauffard les restons Hachem? C'est l'homme, Vaïkra Shemot, qui va commencer à nommer, donc à définir les choses. Et quand il définit les choses commencent à vivre. Magnifique. Par exemple, Maïm. Qu'est-ce que c'est Maïm? C'est bizarre, non? Maïm! Vous dites, bon, ben ça va, on a décidé d'appeler ça Maïm, comme en français, on a décidé d'appeler ça de l'eau. Mais non! Maïm, c'est même et Yud au milieu. C'est-à-dire qu'il y a deux molécules d'hydrogène et une molécule au milieu d'oxygène. Donc c'est H2O, c'est la molécule de l'eau. Car le mot même, c'est Meiman, hydrogène, et Yud, c'est Khamsan, l'oxygène. Donc dans le mot Maïm, il y a déjà la définition de la chimie de l'homme et de l'eau. Et comment est-ce qu'on dit de l'eau au singulier? Ma. Comme en arabe. Vous parlez l'arabe? Ma. Ma, c'est l'eau. Au pluriel, ma'im. Bon, ben d'accord, c'est sympathique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ma, c'est en valeur numérique. 45. Même. Or, c'est la même valeur numérique que Adam. Et c'est la même valeur numérique que Géoula, que la rédemption. Et au pluriel, ça devient maï, même, 2 fois 40, 80, et yud, 90. Donc 2 fois 45, 90. Tout marche bien. Ça veut dire que l'homme, en réalité, est fabriqué à 75% de quoi? D'eau. Et qu'est-ce que c'est que l'eau dans sa racine? Une question. Ma. C'est pas seulement un nom. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'homme ne sait plus en réalité ce qu'il est, eh bien, il n'y a rien qui circule. Alors, l'homme, quand il s'est mis en face de la vache, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, j'ai l'impression que tu es P, Resh et He, Para. Et quand il a bien défini, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour la première fois, elle lui a dit, merci beaucoup, je commence à bouger. C'est difficile, vous savez, de voir un animal sans rien savoir et de dire sa combinaison intérieure. C'est-à-dire les trois lettres, jusqu'à la fin des temps, vous allez rentrer dans la vase, dans toutes les molécules de la vase, vous allez trouver en réalité P, Resh, Aleph, 285. C'est la molécule de la vase. C'est magnifique, c'est magnifique. Et qu'est-ce que c'est que cette vache? C'est en réalité le plus gros animal mangeable, consommable par l'homme. Donc il est à la racine du mot « Pérou pour vous, fructifiez-vous ». D'ailleurs le mot « para » chez les animaux est devenu « péri » dans le végétal, un fruit. D'ailleurs le mot « fruit » en français ou « fruit » en anglais, c'est la même racine que « para ». Et chaque fois que je sonne du chaud, phare, j'ai le mot phare dedans, qui est le masculin de la para. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Ben oui. Si on savait en réalité ce qui se passait, si vous saviez ce que c'est que le chauffard, en français c'est le plus mauvais conducteur. En hébreu c'est le meilleur conducteur de la lumière. D'ailleurs c'est comme ça qu'il faut savoir. Si les Français veulent quelque chose, vous savez que c'est mauvais pour les Juifs. C'est incroyable. Donc dans le mot chauffard, il y a quelque chose d'énorme. Et c'est l'homme le chauffard de l'univers tout entier. Mais bon, je peux continuer à vous raconter des histoires jusqu'à demain matin, mais le temps passe. Rosh Hashanah est là. C'est la fête du changement. Prenez conscience de ce que vous représentez.
כאשר האדם שרוי בעולם, העולם כבר אינו אוסף סתמי של פחמנים. Lorsque l'homme est dans le monde arrête d'être un ensemble de molécules carboniques. Tout se met en place parce que l'homme nomme les choses. Vous savez ce que c'est nommer les choses? C'est énorme. Si je dis à quelqu'un, Boker Tov, c'est une chose. Mais si je le dis, Boker Tov Yair. C'est un autre monde. Dites le nom aux gens. Vous allez voir comment ils sourient tout de suite. Vous leur ouvrez la neshama. Pas juste, hi. Ça va? Nommez les choses. Et d'ailleurs, on voit la sagesse d'un homme ou d'une femme par la capacité que cette personne a à quoi? À définir tout ce qu'il dit. La plus grande des sagesses, c'est la définition, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si je sais définir une pensée, elle devient tellement cristallisée, claire, qu'il n'y a pas besoin d'artifice. C'est ça la sagesse de l'homme. Donc c'est toutes ces molécules qui se mettent en place, en fait. Énergiot vekadomé, toutes ces énergies, et la kli le havayato baruchu. Et donc l'homme devient un ustensile pour la révélation de Dieu sur terre.
Donc nous sommes les révélateurs de l'infini. C'est un rôle terrible. Moi, c'est comme ça, avec cette angoisse, mais en même temps cette simcha, que j'arrive à Rosh Hashanah. Quelle responsabilité, mais comment je fais pour dormir? Qu'est-ce que je peux encore faire pour que mon peuple revienne à la raison? Je vous jure, je suis dans la voiture, j'ai encore 2 heures de route pour entrer, et je dis à Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux pour pouvoir dire les paroles justes qui pénètrent dans la Neshama tout de suite. Il n'y a plus de temps. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, je travaille que pour toi. Moi, j'ai envie de dormir, moi, j'ai envie de me reposer. Je suis crevé. La veille de Rosh Hashanah, j'ai encore des cours, de tous les côtés. 9 cours hier. 7 cours aujourd'hui. C'est pas pour me... C'est parce que je suis responsable, je me sens responsable, et je me dis, si tu ne fais pas le travail, personne ne va le faire. Même si c'est pas vrai. Mais je considère comme si j'étais le dernier. C'était trop. Je sais pas, mais ma mâche, c'est dans cette responsabilité qu'il faut. Et une seule raison pour ça. Ni pour du cabot, ni pour avoir des titres, ni pour avoir quoi que ce soit. Rien. Une seule chose. Kadosh Baruch Hu, je veux que tu te révèles sur terre. J'en ai marre que ton nom soit bafoué par les nations du monde. J'en ai marre que le peuple juif soit toujours en train d'être attaqué. J'en peux plus. Je termine. L'homme, c'est un petit monde. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'homme, c'est ce qu'il y a dans l'univers. Si on savait regarder l'homme, on verrait tout. Tout. Les étoiles, les planètes, le ciel, plusieurs couches de ciel, de cieux. Et David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, toi qui as créé tout ce monde, cet univers, vous êtes sorti un soir comme ça, juste pour regarder les étoiles, vous sortez, non? Vous vous dites pas, mais comment ça tient tout ça? C'est quoi tout ça? Je me sens, mais c'est quoi? On n'est rien du tout, une petite fourmi de rien, comment ça tient tous ces trucs, des milliards de kilomètres? Comment ça tient tout ça? C'est énorme! David Amelech s'est posé la même question. Il dit, avec tout ce que tu as créé, comment tu te rappelles encore de moi? Ça veut dire que l'homme, c'est celui qui raconte l'histoire de Dieu. C'est l'homme qui est là pour raconter cette histoire. C'est à nous de révéler tout ça. Dieu doit sortir de son mutisme grâce au verbe de l'homme. Et l'homme, c'est le véritable chauffard. Et je termine avec ça vraiment. Quand on sent du chauffard, sachez que le chauffard, c'est vous. C'est nous. Il est là pour réveiller, en fait, ce que nous avons à l'intérieur au sommeil. La belle au mois dormant. C'est celle-là qu'il faut réveiller. Et bien, Ezrat Hashem, le chauffard va devenir Shippour, qui veut dire amélioration. Donc, le mot chauffard veut dire s'améliorer, tout simplement. Ishtafer. Il y a une prière qui m'émeut le plus. Elle est toute simple. Dans tout le bardeau de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, il y a un mot, deux mots. C'est comme on dit en hébreu. C'est ça qui me fait tout, moi. Il y a plein de choses. Les gens crient, je m'arrête sur eux. J'aime pas tous ces trucs. Je préfère à la limite quelqu'un qui dise Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, plutôt que des cris et des machins. Mais il y a une prière qui me fait. C'est à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Quand on a fini, allez-nous le Shabbat, quand on a tout fini, on ouvre le Echad. Et à la fin de la prière, quand on a ouvert le Echad, c'est-à-dire c'est le dernier mot, Venihye Tovim. Qu'on soit bon. C'est tout. Devenez bon dans ce monde. c'est l'essentiel de tout. Après, ça rentre dans du beurre. Tout le reste est naturel. Toda Rabba Veshana Tova.